Un curieux point de droit criminel. Le baron Baldaquin de Grandpieu, ou pour lui donner l'intégralité de ses noms et prénoms, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, un des plus jolis alexandrins dont puisse s'honorer la poésie d'un grand pays comme le nôtre, le baron, dis-je, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, homme heureux d'ailleurs sans autre importance, fut au cours de l'année passée le héros d'une tragique aventure au fond de laquelle, s'il ne laissa pas sa peau, c'est qu'il y a un dieu pour les hommes heureux. Parvenu jusqu'à l'âge de 45 ans, 46 ans, sans avoir subi la moindre flèche du jeune et intelligent Cupidon, voilà-t-il pas notre imbécile, subito passionné d'une derrière charmante jouvencelle bavaroise, institutrice gouvernante en un castel proche du sien. S'appeler Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu et devenir amoureux d'une bavaroise, même pas au chocolat, car ce fut un five o'clock tea qu'il l'a connu, d'une manante étrangère, fille peut-être d'un de nos voleurs de pendules de 1871, voilà du bienfait pour, du haut du ciel leur demeure dernière, peut satisfaire les manes illustres et croisadières des vieux baldaquins de Grandpieu. Mais cela n'est rien encore. Les choses devaient aller plus loin. La jeune bavaroise tenait haute au baron la dragée. « Pour vous, soupira-t-il un jour, j'irai jusqu'au bout du monde. » Étrange moyen de démontrer sa flamme que d'entreprendre pareil essuoise touring. « Vous, répliqua-t-elle froidement avec son accent d'outre-Rhin, vous ne seriez seulement bavichu de quitter notre manoir 24 heures au but de venir m'apercevoir à Nice. Vous allez à Nice? Nous y partons jeudi prochain, la comtesse, les enfants et moi. Moi, j'y partirai vendredi. Le château de Grandpieu se dresse non loin de Dijon, sur la commune de Plombières, Côte d'Or par conséquent. Le rapide qui part de Paris à 7h20 du soir pour arriver à Nice vers 10h32, passe à Dijon à 11h30 et n'y fait qu'un arrêt de 5 minutes. Le fameux « arrêt à Dijon ». C'est ce train que le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu résolut de prendre. Personne d'aussi méthodique que ce baron. Ne laissant rien au hasard, il prépare les choses de loin et ne se laisse écarter sous aucun prétexte du programme qu'il s'est tracé, fût-ce dans ses plus menus détails. Permettez que j'insiste sur ce côté du caractère de notre héros, la chose ayant, vous le verrez par la suite, une importance capitale. Donc le baron, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, retint sa place dans le train en question, sa place rigoureusement numérotée. Le lecteur pourra se rendre compte également par la suite que si Baldaquin était au plus haut point doué de l'esprit de méthode, qu'est-ce qu'il prenait pour ce qui est de placer sa confiance en certains serviteurs? Il eut néantement donné le bon Dieu sans confession à Valentin, son jardinier, lequel se trouvait fiancé pour bientôt à une des filles d'une pauvre cantonnière voisin. Voisins ou non, les cantonniers sont bien connus pour maigrement doter leurs filles. Antique tradition voyère, sur laquelle la plume seule de Paul Leroy Beaulieu pourrait jeter quelque clarté. Au fond, cela embêtait beaucoup le jardinier d'épouser une donzelle dont il raffolait, mais tant hélas indoté, sa vieille idée de derrière la tête étant de s'établir démarié pour son compte, car je ne sais pas si vous avez jamais été chez les autres, mais si bonne la place, c'est parfois bien dur. Oh, mon Dieu, pas la folie des richesses. Avec 3 ou 4 000 balles, ce suffisait à Valentin. Il faisait ce soir-là le plus beau temps du ciel, avec, brochant sur le tout, une pleine lune comme on n'en voit pas 20 par an. Tout guillerait à l'idée de contempler demain sa bien-aimée Fraulein. Ma foi, fit Baldaquin, j'ai envie d'aller à la gare à pied. J'aurai assez de toute la nuit pour dormir en chemin de fer. S'adressant au valet de chambre, « Edmond, vous irez avec Jean, le cocher. Portez mes bagages, vous mettrez ma couverture et mon petit sac à cette place dont voici le ticket. D'ailleurs, je serai arrivé avant vous. » À part lui, « Oh, ça me fera du bien, se promit-il de marcher un peu. » Le jardinier Valentin assistait à la petite conversation. Quand eurent disparu les deux larbins, « Monsieur le baron voudrait-il pas que je l'accompagne ? Si monsieur le baron a de l'argent sur lui, à cause des galvaudeux qu'il y a dans le pays en quantité. » Le baron, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, sentit à la seule idée qu'on crut qu'il peut avoir peur, bouillonner en lui tout l'héroïque vieux sang des Baldaquins. « Mais pour qui me prends-tu, Valentin ? Et puis... » Ce en quoi il se trompait si grossièrement. On n'assassine pas un homme pour 3 000 francs, le montant de la somme que j'ai sur moi. Bon, je proposais ça à monsieur le baron, à cause du bois qu'il va sans doute traverser. Mais évidemment, le chemin par le bois me fait gagner un bon quart d'heure. Alors, je n'ai plus qu'à souhaiter un bon voyage à monsieur le baron. Merci, mon bon Valentin. Eh bien, le bonjour à ta charmante fiancée. Monsieur le baron est bien bon. Une demi-heure ne s'était point écoulée que, au sein du brave petit bois en question, monsieur le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu tombait par terre à la suite d'un fort couteau que son jardinier Valentin avait trouvé bon de lui ficher non sans vigueur au beau milieu du dos. C'est l'heure ou jamais d'écrire la suite au prochain numéro. Dans notre prochain numéro, le lecteur en effet pourra connaître les suites étranges de ce sombre drame que nous n'avons jamais eu la pensée de qualifier bien parisien. Je conjure notamment, messieurs les juristes, de ne pas rater la suite de l'histoire, bien faite pour passionner les amateurs de points de droit criminel. Le crime enfin récompensé. Pour les jeunes élèves qu'une indisposition éloigna de notre dernière causerie, résumons furtivement les faits qui s'y trouvaient énoncés. Un certain baron, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, obéro rigoureusement méthodique, a retenu sa place dans le rapide qui passe de nuit en gare de Dijon, se rendant à Nice, car il faut vous dire que le dit obéro habite un castel en ces parages-ci. Le temps est fort beau. Baldaquin se rend à pied par un petit bois qui le raccourcit vers la gare. Porteur d'environ 3 000 francs, il n'a pas caché ce fait à Valentin, son fidèle jardinier, en lequel d'ailleurs il a mis toute sa confiance. Confiance assez mal placée, comme vous pouvez en juger, par ce fait que Valentin s'attribue ses 3 000 francs non sans préalablement avoir criblé son bon maître d'un assez grand nombre de coups de couteau pour, s'imaginait-il, déterminer le trépas du baron. Voilà, nous en étions là de notre récit. Cependant, le cocher Jean et le valet de chambre Edmond, après avoir fait en gare de Dijon enregistrer les bagages de leur maître, le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu manifestèrent de l'étonnement d'abord, ensuite de l'inquiétude, en voyant arriver le rapide sans que le patron se trouvât là à partir d'eux-mêmes. Edmond s'était néanmoins empressé de reconnaître la place retenue et numérotée et d'y placer le sac et la couverture. « Monsieur le baron se sera sans doute attardé, » fit Jean. « S'attarder, le baron ? Eh bien, mon vieux, tu ne le connais guère. Le baron est toujours à la minute. Alors, un accident ? Un malheur, plutôt. » Au château où la jument grise les ramena de son meilleur galop, pas de baron, pas de nouvelles du baron. Le baron avait dit adieu à tout le monde, allumé sa pipe et filait d'un air joyeux. Le dernier qu'il avait vu, c'était Valentin, à la grille du parc. « Valentin ! Valentin ! Valentin !» Malgré tout ce tapage, Valentin ne paraît pas. On monte dans sa chambre et que trouve-t-on ? On ne frémissait pas encore. On trouva Valentin dormant à poing fermé. « Eh ben mon cochon, t'en as un sommeil ! Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a que le baron n'était pas à la gare. »« Pas à la gare, le baron, mais où était-il donc ? On n'en sait rien. Allons donc. » Avouez, divine lectrice et vous, subtil lecteur, que si je n'avais pas été assez bête pour vous renseigner sur l'assassin du baron, vous ne vous douteriez jamais que c'est ce brave Valentin, si profondément endormi du sommeil du juste. Une heure après, on retrouvait dans le petit bois le cadavre de M. le baron Gustave-Henri Julien Valenquin de Grandpied. Son cadavre, non, contentons-nous de dire son corps provisoirement inanimé. Le baron respirait encore, faiblement, mais il respirait. Il revint à lui juste pendant les quelques secondes nécessaires pour prononcer ces paroles d'une importance au point de vue judiciaire qui n'échappera à personne. « C'est Valentin qui m'a tué !»« Valentin ?» fit le médecin qui lui prodiguait les soins les plus empressés. « Quel Valentin ?»«
Valentin, mon bon jardinier !»
Puis M. le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu retomba mort, ou tout au moins à ce qu'on crut, car cette mort apparente n'était qu'un coma dont le pauvre homme ne sortit que bien longtemps après. Immédiatement arrêté, Valentin nia comme un joli diable, mais ces 3 000 francs, mon pauvre Valentin, qu'on trouva au fond d'un vieux pot à fleurs, est-ce de tes économies ? Et cette montre-là aux armes des grands pieux, et ces bijoux ? Ah, c'est bien le cas de le dire qu'il en a une sautée, le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpied. Vous me croirez, si vous voulez, il en réchappa de ses blessures, de ses terribles blessures. Après 3 mois, il était debout, et assez bien portant pour venir déposer à la cour d'assises de Dijon, où se jugeait l'affaire Valentin. Vous continuerez à me croire, si vous voulez, Valentin fut acquitté haut la main. Mieux, il rentra immédiatement au service du baron avec même une augmentation notable. Miracle, vous écriez-vous ? Non ! Effet fort simple, d'une habile plaidoirie et d'une incoercible logique. Cette plaidoirie, nous la donnerons dans notre prochain numéro, en nous excusant bien fort de n'avoir pu nous procurer à cette occasion M. Georges Courteline, le sténographe judiciaire bien connu. Une belle cause. Passons rapidement sur le spectacle que représentait la cour d'assises de Dijon le jour où fut jugée l'affaire Valentin. Valentin, l'infidèle et meurtrier, serviteur du baron Baldaquin de Grandpieu. Les organes régionaux et ceux même de Paris nous ont assez rasés avec ces 1000 futiles détails qui ne manquent jamais d'accompagner les causes aussi sensationnelles. Nous connaissons l'affaire, l'interrogatoire ne nous présenterait rien de nouveau, non plus que les bafouillages des témoins. Seul nous importe la magistrale plaidoirie de maître Le Tocquart, morceau d'éloquence judiciaire dont, bien piteusement, nous nous excusons de ne donner qu'un pâle aperçu, rapport à la sténographie absente. S'étant incliné devant le président, les gens de la cour et messieurs les jurés. Devant vous, messieurs, vous pouvez contempler 2 hommes bien différents, une victime et un coupable. La victime, commençons par elle, puisque la société, par une sorte d'étrange survivance, continue à considérer les victimes comme plus intéressantes que les coupables. La victime, désignant le baron, dis-je, la voilà. Elle porte un bien joli nom, la victime. Elle s'appelle la victime, Monsieur le baron Gustave-Henri Julien, baldaquin de Grandpieu. »
Reprenant ce nom, le scandant le rythmant ainsi qu'il convient aux alexandrins triomphants.
« Gustave-Henri Julien, baldaquin de Grandpieu. Un joli nom, doublé d'un beau verre de 12 pieds. S'il ne s'agissait d'un personnage aussi génial que la victime, on pourrait même ajouter que son nom et lui, ça fait 13 pieds. » Rire dans l'assistance. « Donc la victime est baron et porte les plus jolis noms et prénoms que comportent les fastes de notre valeureuse et antique Bourgogne. Non, contente d'être noble, la victime est riche, pas moins de 100 000 francs de rente, sans compter les espérances. » Les espérances. Les espérances, c'est dans ce monde-là l'ensemble des sommes qu'on espère, vous entendez bien, qu'on espère toucher au trépas de vos proches. Les espérances. Et ces personnages qui parlent ainsi joyeusement d'espérance, c'est les mêmes qui se plaignent que les gens qui ne leur sont rien tentent de les assassiner pour une moitié de 2 ou 3 000 francs. Mais n'anticipons pas. Donc, notre victime est noble et riche. Ce ne serait rien, tout cela, sans la santé. Or, monsieur le président, messieurs de la cour, messieurs les jurés, contemplez-moi ce Rubicon faciès. Qui est-ce qui dirait jamais que cet homme-là, pardon, ce baron-là, relève d'un accident si terrible que tout autre que lui eût laissé sa peau? Eh bien, la vérité, c'est que monsieur le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu se porte admirablement, ne s'est jamais mieux porté, qu'il se porte infiniment mieux qu'avant l'accident qui nous réunit tous ici, messieurs, aujourd'hui. Le sang qu'il a répandu l'a fortement décongestionné. Dans les quelques mois qu'il a passés au lit, ne voyez qu'une salutaire cure de repos en laquelle il a puisé toute une existence nouvelle. En un mot, comme disent les gens, c'est un nouveau bail que la victime a passé avec la vie. Pauvre victime! Mais ce n'est pas tout. Notre victime, et ici quelques longueurs doublées de mauvais goût que nous croyons devoir supprimer. Et maintenant, messieurs les présidents, messieurs de la cour, messieurs les jurés, que nous avons suffisamment gémi sur la navrante situation de la victime, jetons un coup d'œil sur celle du coupable. Le coupable, vous l'avez sous les yeux. Alors que la victime en liberté peut se lever et sortir d'ici, ce qui entre nous constituerait une simple preuve de tact, rentrer chez elle ou ailleurs, le coupable, malgré le goût très vif qu'éprouvent les jardiniers dont il est pour le grand air, ne pourrait esquisser le plus pâle mouvement ambulatoire, prohibé qu'il en serait, désignant les gendarmes, par cette intelligente paire de Pandore qui tient de toute sa sollicitude à l'accompagner sur ses bancs. Le coupable ne porte pas un de ces noms dont s'enorgueillissent les fastes de Bourgogne. Le coupable ne se dénomme pas Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu. Non, enfant trouvé, le jour de la Saint-Valentin, le coupable se contente de s'appeler Valentin. Valentin tout court, comme dit Victor Hugo. Et je ne pense pas que vous songiez à repousser du pied, dans cette affaire, la grande autorité de ce flambeau que fut Victor Hugo. Vive sensation dans l'auditoire. Pas noble, le coupable est-il riche davantage? Vous savez bien que non. Sans patrimoine, le pauvre Valentin ne possède plus aujourd'hui le moindre maravédis. Monsieur le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, ayant poussé la belle âme jusqu'à lui supprimer les 35 francs mensuels de son traitement pendant les quelques mois de congé forcé dans la maison de détention de Dijon, où, s'il se trouve, c'est grâce à qui, sinon à celui que les sensiblards appellent la victime? Mais si ce n'était encore que cela, de n'être point né, de n'être point riche, d'être dans les fers même, à la rigueur, on se console, surtout quand on possède une âme aussi bien trempée que celle de notre coupable. Mais la plaie dont ne se trouve aucun baume, c'est d'être séparé de celle que l'on aime, de celle qui vous aime. Ah, monsieur le président, ah, messieurs de la cour, ah, messieurs les jurés, avez-vous jamais aimé? Fûtes-vous jamais séparé à la suite de je ne sais quel imbécile traumatisme survenu à autrui? Fûtes-vous séparé de l'objet de votre flamme? Si oui, vous devez ressentir en vos parois, tel un douloureux écho, la torture qui ronge le cœur de Valentin, avec moins d'acuité peut-être que le vautour de Prométhée n'en mettait à ronger le cœur de Sisyphe. Long et profond frémissement dans toute l'assistance. Ici quelques aperçus longuets, ne jetant sur l'affaire aucune lueur nouvelle, passons. Avant d'entrer dans le vif de l'affaire, j'ai tenu, monsieur le président, messieurs de la cour, messieurs les jurés, à vous crayonner un cursif parallèle entre une victime et un coupable, entre, désignant d'un doigt mépriseur le baron, la victime, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, et un coupable, désignant Valentin non sans exaltation, le coupable Valentin, Valentin tout court. Une suspension d'audience nous force à remettre au prochain numéro la suite de ce remarquable plaidoirie. Suite et fin d'une belle cause. Maître Letocard reprit ainsi la parole. Et maintenant, monsieur le président, messieurs de la cour, messieurs les jurés, que vous connaissez l'état moral et physique de la victime et du coupable, entrons dans le vif de la cause. Les événements, vous les connaissez, je me contenterai donc de les résumer hâtivement. Un beau jour, monsieur le baron, Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu, forme le projet de se rendre à Nice, où ne l'appelait aucune raison sérieuse d'affaires ou de santé. Il s'y rendait, dans le but unique de retrouver une jeune fille qu'il espérait suborner. Cette jeune fille, une courte et discrète enquête nous le révéla, n'est autre que l'institutrice allemande et même bavaroise des enfants de la marquise de P, dont le château n'est pas très loin de celui du baron. Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu. Méthodique ainsi qu'une table de Pythagore, le baron a retenu et fait numéroter sa place dans le train de nuit qui passe en gare de Dijon à 11h30. L'idée lui vient de se rendre pédestrement à la gare, dont la traversée par un petit bois le met à une demi-heure à peine. Son jardinier, Valentin, ici présent, celui que vous appelez un peu à la légère le coupable, propose de l'accompagner. Mais le baron en refuse, alléguant qu'on ne tue pas un homme pour 3 000 francs, les 3 000 francs qu'il porte sur lui. Que se passe-t-il alors dans l'âme de Valentin? À l'interrogatoire, par un sentiment de pudeur qui l'honore, Valentin n'a pas voulu nous éclairer sur ce point. Je vais donc parler pour lui. Valentin n'ignorait rien de la détestable flamme que monsieur le baron Gustave-Henri Julien Baldaquin de Grandpieu nourrissait pour l'institutrice allemande, pour la bavaroise, pour l'étrangère en un mot. Ces 3 000 francs, à n'en pas douter, lui étaient destinés, sans compter tous les autres 1 000 francs à suivre. Valentin est français, messieurs. Valentin a passé 5 ans à l'ombre de notre gracieux drapeau, messieurs. Valentin est patriote, messieurs. Oh non, s'écrie Valentin, cet or gagné à la sueur de bons Français ne passera pas à l'étranger, ou pour mieux dire, messieurs, à l'étrangère, qui s'en servirait dans un but sur lequel mon souci bien connu de la défense nationale me défend d'insister. Et Valentin fit simplement ce que tout bon Français eût fait à sa place. Devançant le baron par un chemin détourné, il l'attendit au coin d'un nombreux carrefour, et le soulagea de ses odieux 150 louis. Ce genre d'opération ne marche pas généralement sans quelque violent traumatisme. Et le félon resta comme mort sur le carreau. Comme mort, heureusement pour lui, car après un traitement de quelques mois, vous avez pu en juger par vous-même, complètement rétabli. Il réjouit la vue de ses contemporains par son œil clair, son pas alerte et son teint fleuri. La vérité, c'est qu'il se porte infiniment mieux qu'avant. Murmure approbatif dans l'assistance. De ce chef, au lieu de venir charger ce pauvre Valentin, il aurait dû vouer la plus éternelle des reconnaissances. Mais si le baron ne devait que la santé à Valentin, ce ne serait rien encore. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, messieurs les jurés, le baron Gustave-Henri-Julien Baldaquin de Grandpieu doit la vie à Valentin. Sans Valentin, sans l'affreux coupable que vous avez devant les yeux, le baron s'embarquait dans son train à la place qu'il avait soigneusement fait numéroter. Or, il n'y avait pas une demi-heure que le train en question avait quitté la gare de Dijon, qu'il était horriblement tamponné, le souvenir n'en est-il pas encore présent à vos mémoires, de la terrible catastrophe de Foligny-sur-Saône. Ce train, dis-je, était tamponné par un convoi de marchandises. Un wagon fut broyé et tous les voyageurs inclus réduits en bouillie. Or, ce wagon n'était autre que celui où la victime, oh la victime, laissez-moi rire, avait fait si méticuleusement retenir et numéroter sa place. Concluez. Si, pas brusquement interrompu dans sa route par le prévoyant Valentin, le baron s'était embarqué dans son train, où serait-il aujourd'hui? Et c'est cet homme-là que vous venez de traiter d'assassin? Ah, oh, monsieur le Président, ah, oh, messieurs de la Cour, ah, oh, messieurs les jurés, ce n'est pas de la pitié que je viens de vous demander, pas même de la justice, mais comme un énorme élan de reconnaissance pour l'accusé Valentin, qu'une mystérieuse prescience poussa à retarder le fatal voyage de son maître, et qui, tant aller loin son dévouement, n'hésita pas à employer les plus rudes moyens pour arriver à son but. Et puis, je sais deux femmes qui pleurent en attendant votre verdict. Sa fiancée, la blonde et délicieuse fille d'un honnête cantonnier nouvellement récompensé d'une prime de 10 francs que lui a décerné le Touring Club de France. La pauvre enfant pleure en pensant à son Valentin, à son Tintin chéri, comme elle dit la Candide. Une autre femme pleure aussi, et s'adressant solennellement à Valentin. C'est le moment, Valentin, d'être un homme et d'entendre d'un cœur ferme une révélation sur laquelle vous ne comptiez sans doute plus jamais. Cette femme qui pleure, et emportée par le pathétique de la situation, il tutoie Valentin. Cette autre femme, mais c'est ta mère. Car enfant trouvé, Valentin n'en eut pas moins une mère, une digne et noble femme, qu'un époux cruel maintient depuis 35 ans dans une obscure tourelle d'un sombre château du Rouergue. Oh, pauvre mère, pauvre fiancée. Nous croyons devoir supprimer la fin de cette remarquable plaidoirie, dont le ton étrangement douloureux contrasterait un peu vivement avec l'allure ordinaire de notre publication. La cour d'assises de Dijon n'était plus qu'une mare, tant tout le monde pleurait abondamment. Le président, les magistrats, les jurés, l'accusé, les assistants, parmi lesquels Monsieur Richard, propriétaire des biscuits Pernod, les gendarmes, tout le monde pleurait. Mais où ce fut le plus beau, c'est quand Monsieur le baron, Gustave-Henri-Julien Baldaquin de Grandpieu, se leva précipitamment, et vint serrer sur son cœur son excellent Valentin, son héroïque sauveteur. Dès lors, l'acquittement était couru.